Bonsoir Benjamin.
Bonsoir David et bonsoir à tous. Effectivement, depuis le Grand Prix Guyadère à Douarnenez, rendez-vous donc dans cette belle baie de Douarnenez où depuis déjà la fin de semaine précédente et jusqu'à dimanche, eh bien on va naviguer sur à peu près tout ce qui flotte ou qui vole un petit peu parfois. C'est le lot de ces nouveaux bateaux un petit peu volants. Le rendez-vous de la voile et du nautisme donc sous toutes ses formes, c'est à Douarnenez et pas ailleurs. Et si on croise des kites, des planches à voile, des voiliers du patrimoine, des voiliers de course aussi ultra pointus, on l'a dit, on va en profiter donc pour parler de tout ça, aussi de la Transat anglaise qui est partie aujourd'hui de Plymouth, des Diam 24, ces petits trimarans qui servent de support au Tour de France à la voile et qui en ont terminé aujourd'hui après 3 jours de régate acharnée sur le plan d'eau de Douarnenez, puis des rendez-vous des prochains jours également, et notamment en Dragon, ce voilier si élégant qu'on a plaisir chaque année à voir évoluer en flotte, et en flotte plutôt nombreuse à Douarnenez. On parle aussi foot pendant cette heure ensemble sur France Bleu Brésil avec le Stade Brestois qui désespère un peu son public, il faut bien le dire. 4e match de suite sans but marqué à la maison, c'était vendredi, défaite 2-0 contre Evian. Deux journalistes avec nous pour en parler dans un tout petit instant. Et puis en fin d'émission, on ira à Plomelin, pas très loin de Douarnenez là aussi. Le Mondial Pupille revient comme chaque année au printemps, on en parle avec son directeur Alain Bossert. Pour pimenter un petit peu tout ça, 2 places à gagner pour le prochain match à Francis Leblé cette saison, et sans doute le dernier d'ailleurs, et même le dernier, c'est Brest contre Auxerre, la 38e journée de Ligue 2, la dernière sortie du stade brestois. Il faudra répondre à une question juste après la partie foot de cette émission. Vous restez bien à l'écoute. Stade Bleu en direct de Douarnenez, c'est jusqu'à 19h sur France Bleu Brésil. En direct du port de Tréboul, donc à Douarnenez, où l'on profite de la fin de journée sur le Grand Prix Guyadère. Il y a des bateaux, bien sûr, des marins, évidemment, mais aussi des amateurs de foot. On en compte quelques-uns autour de nous et on revient justement sur la 36e journée de Ligue 2. On va prendre quelques 10 minutes pour cela à présent. Brest a donc perdu à la maison, c'était vendredi dernier. Défaite 2-0 à Francis Leblé contre Evian Thonon-Gaillard. Et pourtant, le match avait bien débuté pour Brest. On va en parler avec les journalistes David Gazanek de West France et Maël Moisan du Télégramme, juste après le résumé audio de la rencontre. Au micro de Thomas Lavaux et Greg Robin.
France Bleu Brésil, la radio du foot breton.
Allez, attention, parce qu'ici, Evian est de plus en plus dangereux. Cédric Barbossa, la passe pour Kevin Ogas, intervention de Yaya Sané qui va s'enfermer tout seul près de la ligne de touche. Un crochet sur Kevin Ogas, il va passer avec un peu de réussite, Yaya Sané. Double crochet ensuite sur Cédric Barbossa et il se dit qu'il est temps de lâcher le ballon. Et il le passe à Simon Fallette. Quelques applaudissements. Passe latérale de Barbossa qui va trouver Sorlin dans le rond central. Sorlin pour la montée de Ludovic Suarez le long de la ligne de touche sur le côté gauche. Il a du champ. Le centre, attention, tout seul, Yann Kay, la tête et le but. Et le but marqué par Yann Kay, jeune joueur dont c'est le 2e but en professionnel. Et l'ouverture du score à la 18e minute de jeu pour Evian Thonon-Gaillard. Allez, ça va mieux pour Simon Fallette. Le coup franc de Johan Hartog, malheureusement, qui ne donne rien. La relance de Fall. Et écoutez l'ambiance de Francis Leblé.
C'est feutré.
Il y en a quand même un qui a crié « Allez les Blancs » tout à l'heure.
Voilà.
Parce que là, très honnêtement, on s'ennuie. On s'ennuie, il n'y a rien à dire. En plus, la Evian Thonon-Gaillard met 3 ans à effectuer une remise en jeu. Suarez face à Valentin Henry. Oh, le petit pont, il est passé. Suarez, ballon dans la profondeur, dans l'axe. Yann Kay, et le but. Non, le poteau. Le poteau, c'est peut-être pas terminé. Et cette fois-ci, le but. Cette fois-ci, le 2e but pour Evian Thonon-Gaillard à la 77e minute de jeu. Et c'est un but marqué par Camin et une passe décisive de Stéphane Diarra, joueur amateur entré en jeu il y a quelques minutes. Stéphane Diarra qui a frappé sur le poteau, qui a récupéré le ballon et qui l'a transmis à Camin. Et Camin qui envoie le ballon sous la barre transversale de Johan Hartog. 2-0 pour Evian Thonon-Gaillard à la 72e minute de jeu. Que c'est triste.
On n'est pas dans la tête des joueurs, ni dans leurs jambes. Cela étant, ce qu'on a montré ce soir, c'est insuffisant pour battre cette équipe de l'ETG. Alors après, les raisons, je ne les ai pas, moi. Voilà. Mais c'est une déception pour Alex, déception pour le staff, et puis je pense aussi déception pour les joueurs. Hein. Voilà, on avait fait le pari de gagner nos 3 dernières rencontres. Bon, là, ça a bien mal démarré, donc il nous en reste 2. Alors effectivement, si les ingrédients sont les mêmes que ce soir, ça sera compliqué.
Stade Bleu, le foot en Bretagne.
Voilà donc pour cette triste défaite 2-0, c'était vendredi soir contre Evian Thonon-Gaillard. Et à la fin du match, vous l'avez entendu, ce n'est pas Alex Dupont comme de traditionnel qui est venu en conférence de presse, mais son adjoint Éric Guichard. Ambiance. Alors on en parle ce soir pour parler du Stade Brestois. Nous sommes en ligne avec Maël Moisan du Télégramme. Bonsoir Maël.
Bonsoir Benjamin.
Et David Gazanek de West France. Bonsoir David.
Bonsoir Benjamin.
Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Un petit mot déjà sur ce point, Alex Dupont qui délègue son intervention devant les médias. Alors même si c'est vrai s'il n'y a plus beaucoup d'enjeux dans cette saison, qu'est-ce que ça veut dire? Plus de pilotes dans l'avion brestois, plus personne pour assumer un petit peu les résultats. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux, Maël?
Bah, sur le coup, moi j'étais pas là au moment où il est sorti, mais il s'est expliqué rapidement auprès des médias. Il a dit qu'il souhaitait pas s'exprimer, un peu trop honte sur ce match-là. Bon, même s'il y avait eu des choses intéressantes aussi dans ce match, il n'y a pas eu que du mauvais, mais pas eu envie de s'exprimer, mais bon, il a eu la délicatesse de passer de prévenir quand même les médias qui ne s'exprimeraient pas toujours, quoi.
Bon. David, est-ce que c'est le symptôme de quelque chose, ça, de voir Alex Dupont faire profil bas, entre guillemets?
Non, je sais qu'après plusieurs fois, après quelques défaites, il a fait des passages extrêmement rapides en point presse où c'est arrivé à une occasion qui ne s'exprime pas. J'imagine que c'est une déception de sa part, sans doute de la prestation de ses joueurs ou de ce qu'ils lui ont rendu.
C'est d'abord la frustration sportive d'abord.
Je suppose.
C'est vrai, pourtant elle le disait, il y a eu un assez bon début de match, une équipe de Brest plutôt portée vers l'avant, des occasions, un poteau, et puis ensuite un peu plus rien après le premier but de l'équipe d'Evian justement. Est-ce que c'est dans l'état d'esprit encore une fois que Brest a un petit peu pêché en trébuchant justement après ce match, Maël?
Moi je pense que dans l'état d'esprit, Brest y était davantage que contre Laval, notamment où Laval vraiment ça avait été un échec total, il y avait eu vraiment un manque d'engagement, enfin, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de manque pour cette équipe. Là elle a vraiment bien démarré, et tu en parlais, le poteau, Alman touche le poteau au bout de la deuxième minute, ils ont deux autres frappes dans la foulée. Donc les intentions, j'avais vraiment l'impression que j'étais pas le seul, que les intentions y étaient. Maintenant après ça reste tout à fait insuffisant quand même pour passer une équipe des Lions qui était relégable et qui vaut sa place. Hein. C'était pas non plus une grande équipe d'Evian en face, hein. C'était plutôt une équipe solidaire, quoi, mais pas une grande équipe. Donc c'était un peu mieux dans les intentions, mais ça reste nettement insuffisant.
David Guézanet, qu'est-ce que vous pensez du scénario du match de Brest quand l'équipe perd un petit peu le fil comme ça et qu'elle montre sans doute moins de choses en deuxième mi-temps? C'est qu'il y a... Il y a du malaise.
Moi, j'étais pas au match, hein, donc je vais pas vous parler du match. Après, peut-être qu'en effet, en fin de saison, il est plus difficile de motiver une équipe qui n'a plus d'enjeu, de motiver des joueurs dont la majeure partie savent qu'ils ne seront pas là l'an prochain, ou qui ne connaissent pas encore leur avenir, qui savent qu'ils n'auront pas le même président, qu'ils n'auront pas le même entraîneur. Évidemment, c'est sûrement plus compliqué que de motiver une équipe qui a un objectif commun, et c'est toujours un objectif commun qui guide une équipe.
Alors justement, restons sur ce sujet qui est vraiment important. Sur quoi se baser à Brest, David, à votre avis, pour reconstruire le projet l'an prochain? Est-ce que c'est d'abord confirmer des joueurs importants? On a vu par exemple Bruno Grougy, hein, qui a été confirmé. C'est des joueurs qui peuvent compter dans un effectif, ou alors tout baser sur le recrutement de l'entraîneur, d'attendre que le président, lui, le futur président donne ses consignes. Quel est le mode d'emploi pour la bonne saison, la prochaine bonne saison?
C'est à moi que vous posez la question, Benjamin.
Oui.
Je ne sais pas s'il y a un bon mode d'emploi. Hein. C'est toujours compliqué. On dit que c'est d'autant plus compliqué quand on change beaucoup de joueurs, mais il n'y a pas de vérité non plus. Ils vont devoir en changer. Après, oui, il ne faut pas se tromper dans le recrutement quand vous avez 14 joueurs en fin de contrat. Et visiblement, cette saison, ils sont un peu trompés dans le recrutement.
Est-ce que, par exemple, les bons résultats de l'équipe de Gambardella doivent être pris comme... quelque chose de bon augure et peut-être faire entrer un peu plus les jeunes dans l'équipe?
C'est sûr que les résultats de Gambardella montrent qu'au moins il y a un potentiel jeune au Stade Brestois.
Oui, voilà.
Après, à savoir s'ils ont la maturité ou pas aujourd'hui, certains ont estimé que non aujourd'hui. Ils ont été tentés. C'est sûr que il y a des résultats, ils le montrent régulièrement. C'est ce sur quoi s'appuyer à long terme. Après, à court terme, faut voir.
Mais Moisan, le court terme pour vous, c'est plutôt jeunes, le recrutement.
Moi, je reviens sur ce que dit David sur les 14 joueurs en fin de contrat. C'est vrai que ça va être encore un problème parce qu'on l'a vu cette année, l'effectif a déjà beaucoup bougé. D'ailleurs, il y a des joueurs qui l'ont dit même. Hein. C'est vrai que plus tu chamboules un effectif saison après saison, c'est pas comme ça qu'on construit, quoi. Donc c'est sûr que ce sera pas simple. Maintenant, bon, il y a quand même ils vont être obligés de repartir quand même sur une page relativement blanche avec tous les changements qu'il y aura, direction, entraîneur, etc. Et donc les joueurs, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de mode d'emploi, mais ça va être encore grandement bouleversé. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner comme ambition la saison prochaine, quoi. C'est sûr que c'est difficile d'y voir clair pour le moment, quoi.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire un petit peu tous les deux que cette saison c'est un peu un coup pour rien, où on a attendu un peu que les choses se passent et quand on tire le bilan, au mois d'avril, au mois de mai, c'est un petit peu décevant, non?
Maël.
Personnellement, moi je pense que c'était l'équipe qui avait l'équipe est à peu près à sa place, grosso modo, entre la 8e et la 12e place. La saison dernière, c'est un échec, parce que la saison dernière, il y avait réellement une équipe pour monter. Bon, cette saison, sur les qualités de cet effectif, je suis pas persuadé qu'il y avait les qualités pour monter par rapport à d'autres équipes qui sont quand même qui étaient nettement plus armées et surtout qui étaient dans la continuité. On a vu Nancy et Dijon monter très rapidement. Je pense que c'est pas pour rien.
C'est vrai. David.
Ouais, je suis un peu dans la même idée que elle. Surtout que ils ont tâtonné en début de saison. Il y a quelques erreurs de casting quand même. Faut bien l'admettre dans le recrutement. On attendait beaucoup d'un attaquant qui est parti en décembre, hollandais, qui n'a pas montré grand chose au Stade Brestois et qu'on a fait jouer pendant un certain laps de temps en espérant qu'il trouve le déclic, ce déclic qu'il n'a pas trouvé, qu'il trouvera peut-être ailleurs, hein. Mais il s'avère qu'on a perdu du temps à ce moment-là. Il a fallu refaire jouer un autre attaquant qui a vu qu'il n'était pas forcément la priorité au départ. Voilà, ça a un petit peu compliqué la donne, ça aussi. Et puis il y a des joueurs qui ont été recrutés, donc on peut se demander des fois s'ils sont complètement impliqués, quoi. Voilà, c'est une réalité aussi.
Est-ce que le club a votre avis
de niveau, comme disait Manuel, oui, je pense que cette équipe, elle est à sa place, quoi.
Est-ce que pour assainir un petit peu l'ambiance et l'ambiance générale dans et autour du club, est-ce que vous pensez que le futur président ou l'entraîneur devront peut-être se rapprocher des clubs de supporters? Parce que oui, il y a eu une ambiance pas très sympa à Le Blé cette saison. On sent qu'il y a un divorce là entre les premiers supporters du club et puis le staff. Est-ce qu'il faudra travailler aussi là-dessus, à votre avis, pour calmer un petit peu le jeu la saison prochaine, David?
Je pense qu'ils ont déjà commencé à travailler dessus, de toute façon. Ouais. Ils sont rapprochés des supporters, très, très vraisemblablement, pour la saison prochaine. Ça paraît quand même évident.
David, c'est important
peut-être le partir sur une nouvelle donne va un petit peu changer quelque chose. C'est les premiers signes qui seront montrés aussi. Et faut attendre, quoi. Hein.
On en parle beaucoup en ce moment à Brest. Ce sera la dernière question avant de revenir ici au Grand Prix Guédard et la Voile. Quel est votre avis à tous les deux? Quel crédit accorder à l'hypothèse? C'est une hypothèse pour l'instant du retour de Paul Le Guen au sein du club, cette fois comme entraîneur. Ça a été souvent rêvé, envisagé, puis bon, ça n'a jamais pu se faire. Est-ce qu'il y a plus de chances que ça arrive cette fois, David Gazenec?
Écoutez, moi je suis pas président du Stade Brestois, donc c'est pas moi qui prendrai la décision. Je suis pas futur président non plus. Visiblement, oui, ils l'ont rencontré, comme ils avaient rencontré Pascal Duprat, mais ça ne s'est pas fait, comme ils ont probablement rencontré Furlan aussi, qu'il y a encore la piste qui est grande apparemment. Tout est question des moyens qui voudront se donner, et puis de la faisabilité de la chose, quoi. C'est sûr que ce serait un geste fort, reste à savoir si c'est possible aujourd'hui. Je crois que seuls les dirigeants, les futurs dirigeants Brestois et Paul Le Guen le savent.
Maël, ton avis sur la question?
Ben, effectivement, c'est une hypothèse crédible. Maintenant, rien n'est signé pour le moment. Et puis, le tout est de savoir, c'est sûr que ça ferait causer. Ça aurait un certain retentissement et c'est un non. Maintenant, après la suite, c'est pas pour ça que Brest se mettra à monter en Ligue 1 dès la saison prochaine, quoi. Il y a encore pas mal de marches avec Le Guen ou sans Le Guen, quoi, à franchir.
Merci beaucoup à tous les deux, Maël Moisan du Telegram et David Gazenec de Ouest France. Bonne soirée à tous les deux, à bientôt sur France Bleu Brésil.
Bonne soirée, Benjamin.
Allez, on continue en direct de Douarnenez, mais on fait tout de même gagner des places de foot pour le prochain rendez-vous de Brest à domicile. Ce sera contre Auxerre en Ligue 2, dernier match, la 38e journée. Pour cela, vous répondez à une question en rapport avec la ville où l'on se trouve aujourd'hui, Douarnenez. J'aimerais que vous me donniez le nom de ce douarneniste. Attention, en jeu, il y a deux places, hein, deux places, je ne vous ai pas dit deux places pour ce Brest-Auxerre du vendredi 13 mai. Donc vous allez me donner ce nom de douarneniste, champion de France avec le FC Nantes en 95. Il a aussi été entraîneur de Nantes, entraîneur également de l'US Concarneau pendant une saison et aujourd'hui il est adjoint à Angers. Ce footballeur douarneniste est-il Christian Gourcuff? Réponse 1. Serge Ledizet? Réponse 2. Ou Romain Danzé? Réponse 3. Le numéro de téléphone 02 98 53 65 65. Je vous repose la question. Un footballeur douarneniste aujourd'hui entraîneur, est-ce qu'il s'agit de Christian Gourcuff, Serge Ledizet ou Romain Danzé? Sachez également comme indice qu'il a été champion de France avec le FC Nantes en 1980. À tout de suite au standard.
On joue ensemble au 02 98 53 65 65. France
Bleu. Mardi 10 mai et mercredi 25 mai, émission spéciale impôt dans les experts sur France Bleu Brésil de 9h à 10h avec les représentants de la Direction Générale des Finances Publiques. Que vous soyez professionnel ou particulier, posez-leur vos questions en direct. Spécial impôt, les 10 et 25 mai à 9h sur France Bleu Brésil.
L'inforoute avec Inforoute 29. Service vous alertant des travaux, déviations, accidents sur les routes départementales finistériennes. Toutes les infos sur finistère.fr/inforoute29.
France Bleu Midi Ensemble. Daniela Lombroso.
Ils vous font rire, vous les aimez au cinéma, au théâtre, ils font l'actu de la musique. Tous vos artistes favoris se retrouvent à la table de France Bleu Midi Ensemble. Avec eux, Thierry Garcia et ses imitations de stars, les actus télé de Patrice Gascoigne et les découvertes musicales d'Élodie Suigo. C'est France Bleu Midi Ensemble, c'est votre rendez-vous bonne humeur de la mi-journée.
France Bleu Midi Ensemble, demain à midi.
Où sont tes toilettes, s'il te plaît?
Alors, tu passes le ficus, tu tournes à droite après le yucca, tu longes les plantes en pot, tu fais attention au cactus. Et c'est au bout du couloir, à côté de la lavande.
Ah, ok.
Jusqu'au 29 mai, c'est les semaines vertes chez Ikea. Faites le plein de plantes d'intérieur et d'extérieur, avec par exemple 3 plantes et leurs pots de la gamme succulente pour 4,99€ seulement, dans la limite des stocks disponibles. Ikea.
30 ans que vous l'attendiez.
Elle revient enfin à Brest.
Du 5 au 9 mai.
22 000 mètres carrés d'espace d'exposition, 350 exposants, 30 animations, 10 restaurants.
Aurez-vous assez de 5 jours pour tout visiter et rencontrer les professionnels répartis en cet univers? Maison, jardin, spa et piscine, loisirs et bien-être, services, plaisirs gourmands, automobiles et camping-cars.
Du jeudi 5 au lundi 9 mai, c'est le grand retour de la Foire Expo au Parc Pinfeld à Brest. Ouvert de 10h à 19h, le lundi de 10h à 18h.
Info sur foireexpodebrest.fr. France
Bleu. De Ploaré à Tréboul, à Douarnenez, ma radio, c'est France Bleu Brésil.
Toujours en direct du Grand Prix de Douarnenez depuis le port de Tréboul où l'on est bien installé sur la terrasse qui accueille le Grand Prix jusqu'à dimanche prochain. On accueille les skippers de Diam 24 et pas n'importe lesquels s'il vous plaît. Les 2 et 3 sur le podium aujourd'hui. Alors tout d'abord le deuxième, Nicolas Troussel. Bonjour Nicolas, on parle bien dans son micro.
Bonjour.
Tout va bien?
Ben oui, tout va pas fadement bien.
Des couleurs sur l'eau aujourd'hui, ça a été sportif?
Ouais, comme d'habitude en Diam, sur les petits parcours tactiques où ben il y a beaucoup de manœuvres et beaucoup d'intensité, donc forcément un petit peu de sport. Et puis après on a fait un raid qui était aussi qui était assez court, donc il fallait être bien dessus. Ouais.
Pierre Le Boucher à vos côtés pour Oman Sail. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Là aussi même diagnostic, c'était assez sportif aujourd'hui.
Ouais, les conditions un peu plus light qu'avant-hier, donc voilà, mais c'est vrai qu'on manœuvre beaucoup surtout sur les stadiums avec des petits parcours et beaucoup de tours, mais du coup super intéressant avec du vent qui bougeait beaucoup et ouais, tactiquement c'était plutôt très intéressant.
Alors ces Diam 24, on commence à les connaître un petit peu plus, hein. C'est la deuxième saison qu'ils vont être bateau support du Tour de France à la voile, ça va très vite, c'est un petit peu en réduction ces grands trimarans de course au large. Est-ce qu'on a des sensations proches, Nicolas, de ce qu'on peut voir peut-être avec IDEC, là, qui est dans la baie de Douarnenez, le grand trimaran de Francis Joyon?
Non, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir. Bon, il y a quelques similitudes, mais en fait, non, c'est vraiment ça se rapproche plus du dériveur, mais il faudrait voir avec Pierre, qui est plus qu'avec moi sur le dériveur.
C'est quand même quelque chose qui vous oblige à naviguer à 3 avec des postes bien définis et qui vous oblige à quand même beaucoup tourner aussi, non, dans ces différentes sollicitations.
Oui, exactement, et puis il faut être très coordonné et puis chaque à son poste à bord et il faut vraiment, c'est tout le travail qu'on a fait avant de venir faire ces régates justement, où on a cherché à bien communiquer, à bien être coordonné et puis chacun à prendre sa place sur le bateau pour justement quand le vent change ou quand il faut faire des manœuvres, les faire le mieux possible pour que le bateau aille toujours vite et au bon endroit.
Alors la vitesse, c'est justement un des défis de Douarnenez. On essaie de faire se tester les supports les uns contre les autres. Quelle vitesse vous atteignez par exemple en Diam 24? On peut vous voir à combien de nœuds?
Je sais pas, auprès on atteint les 12-14 nœuds et puis au portant les reaching, là je pense qu'aujourd'hui on était pas loin des 19. C'est pour ces petits bateaux, c'est plutôt rapide et là on a eu de la chance et personne qui s'est mis sur le toit, mais la dernière il y a eu quelques bateaux sur le toit. Ouais, c'est des bateaux qui sont assez exigeants techniquement et vu qu'on les pousse un peu Un peu à fond, on peut vite faire des erreurs.
On a pu voir ça sur le Tour de France à la voile, notamment des images assez spectaculaires de chavirage. Est-ce que c'est un bon galop d'essai, Douarnenez, toujours tous les deux, un rendez-vous que vous aimez bien en début de saison pour se jauger les uns les autres,
Pierre? Ouais, très bien. Douarnenez, c'est un super plan d'eau. Moi j'aime bien, et en plus là nous avec l'équipe Oman Sail, ça permet de vraiment se mettre en place pour être prêt pour le tour. On est à 2 mois du tour, je crois, un truc comme ça. Donc ça commence à vraiment se rapprocher, et là ça permet de se tester et justement se voir ce que nos concurrents, comment ils ont travaillé pendant l'hiver, hein, Nico?
Le sourire de Nicolas Troussel, Bretagne Crédit Mutuel, vous faites aussi du Tour de France votre objectif de la saison?
Ouais, exactement, et puis de venir ici c'est naturel pour un bateau sponsorisé par le Crédit Mutuel de Bretagne, et c'est avec plaisir que l'année dernière j'étais en 40 pieds, c'est avec plaisir que je reviens sur ce plan d'eau qui est pas facile, parce que il y a souvent, comme c'est une baie qui est un petit peu fermée, il y a souvent des vents de terre qui sont vraiment instables en force et en direction. Donc c'est très dur pour les tacticiens, et puis très dur pour les nerfs aussi. Et c'était aussi intéressant parce que c'était une des premières régates de l'année où on était 25 sur les stadiums. Et
ça commence à dire quelque chose.
Exactement, enfin 25, non pas 25 sur les stadiums, on était la moitié, mais on était assez nombreux sur les stadiums et ça ressemble vraiment au Tour de France à la voile.
Quand on se rapproche des côtes justement à Douarnenez, il peut y avoir des petits effets de site, ce que vous dites Nicolas, le vent bouge un petit peu, fait quelques pièges et surprises aux équipages.
Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, hein. C'est jamais gagné. Là, on avait fait un côtier aujourd'hui, on allait dans le fond de la baie, du côté du port du Rosemeur, et il faut faire attention parce qu'on sait qu'il peut y avoir des sautes de vent, donc il faut être toujours vigilant.
Pierre Leboucher, quel objectif vous avez avec Oman Sail sur le Tour de France cet été?
L'objectif, on va pas dire que c'est un objectif de place, on va dire que ça va être un objectif réussir. C'est la première année que Oman Sail fait le Tour de France sur les Diam 24, et donc ils reviennent après avoir fait sur le M34. Et là, vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'amener les gars, les Omanais, au meilleur niveau. Et j'espère qu'on va y arriver. Pour l'instant, on est plutôt sur la bonne voie, parce que on fait troisième et je trouve ça plutôt bien par rapport à ce qu'on était capable de faire il y a 2 mois.
Bon, tous les deux, vous avez fait un petit peu de Figaro, donc la course au large, évidemment, vous connaissez pas trop mal. Certains ont même gagné 2 fois la solitaire du Figaro autour de cette table. Votre regard sur The Transat, la Transat anglaise qui part aujourd'hui de Plymouth, ils vont avoir du sacré gros temps, vos camarades, là. Vous avez vu un peu ce que ça va donner?
Ouais, je sais pas, tout à l'heure, je me suis dit, tiens, il faut que je regarde ce soir comment ça se passe.
Il y a des routages qui l'envoient très aux honneurs.
C'est la même chose pour moi, en fait. On est concentré depuis le début de la semaine pour préparer ce Tour de France et préparer cette régate. Et du coup, moi, j'ai complètement zappé l'actualité autre.
C'est une course quand même qui vous parle un petit peu, la Transat anglaise, qu'elle revienne cette année, ça vous dit quelque chose, Pierre Leboucher? Il y a tout un imaginaire derrière quand même.
C'est des Transats très dur, on affronte les dépressions, je pense qu'ils vont bien, même avec des conditions, j'ai pas regardé les fichiers, mais même avec des conditions entre guillemets clémentes, je pense que ça va être dur pour les hommes.
Nicolas Troussel,
Transat mythique forcément, ouais. Et j'aurais bien aimé la faire, en tout cas on va suivre ça dès demain avec plaisir, dès ce soir d'ailleurs avec plaisir.
Est-ce que vous auriez relevé le défi, je vous pose la question comme ça au débeauté, comme Loïc Perron, de la faire avec Pendik 2?
Un Diam 24 non.
Avec un Diam 24 non, c'est pas le support qu'il a choisi. Avec Pendik 2, qui est un voilier plus qui relève du monument historique, Commode Louis XV, dit Loïc Perron, est-ce que c'est un défi qui tente tous les marins ou pas?
Je sais pas, mais en tout cas Loïc, lui, ce qu'il arrive à vraiment bien faire, c'est qu'il est très fort sur tous les bateaux, donc les très gros, les plus petits, il aime bien se donner des défis tout le temps, donc ça m'étonne pas trop de lui qui se relance avec ce bateau là
Nicolas, si on vous donne la barre de Pendik, vous partez?
Je partirais bien faire un tour en mer avec, après de là faire de Transat, non j'espère. Lui il l'a gagné 2 fois je crois, donc il faudrait déjà essayer de la gagner 1 fois avant de partir avec Pendik.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus au micro de France Bleu Brésil ce soir. Très bonne soirée, à bientôt, et on vous retrouvera évidemment sur la saison voile cette année. Pierre Leboucher pour Oman Sail, Nicolas Troussel pour Bretagne Crédit Mutuel, à bientôt.
France Bleu Brésil, partenaire de la Reda Adec. 1050 km, David Arbrézon-Neck.
Il court et se relaie pour financer une crèche, du théâtre en breton ou un film. Retrouvez la Redadec dans les émissions de France Bleu Breizh-Izel et en direct Ebrezonek à Gegalek pour l'arrivée à Locoal-Mindon, samedi 7 mai de 13 à 18h.
France Bleu Breizh-Izel court le kilomètre 789 entre Châteauneuf et Spézet. Et vous, Redegari David Arbrézon-Neck?
À Douarnenez, on navigue sur des Diem 24, les petits trimarans très très au point, mais on navigue aussi sur des bateaux un peu plus anciens, aux lignes un peu moins modernes, mais qui sont très très élégants, c'est les Dragons, et on accueille ce soir le secrétaire trésorier de la classe des Dragons, Jean Brégé, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être venu au micro de France du Brésil. Un sudiste à la, je dis pas à la barre, mais presque de la classe des Dragons. Vous venez de Port-Camargue, votre bateau est basé à Port-Camargue.
Exactement, dans la baie d'Aigues-Mortes.
Est-ce qu'on vient en dragon ou plutôt par la route dans ces cas-là quand on est dans le sud?
On vient par la route, c'est tout l'intérêt du bateau, c'est qu'il est transportable, ça permet de sillonner l'Europe et d'aller rencontrer ses petits copains de jeu partout.
Le Dragon, c'est un bateau qui a été voilier olympique jusqu'en 1972 et qui depuis, même s'il n'est plus voilier olympique, eh bien, reste toujours dans le cœur des douarnenistes, mais pas que. Comment vous expliquez cet amour de toute une classe, toute une génération, même pas qu'une génération de marins autour de ce bateau précisément, aux lignes si familières et si agréables?
Eh bien, ce qui fait la spécificité du Dragon, c'est que l'association française et surtout internationale veille à ce que les performances des bateaux, qu'ils soient récents ou anciens, soient toujours identiques. Nous sommes dans le cadre de la monotypie, donc la recherche technologique n'est pas notre problème. Ce que nous voulons, et la valeur essentielle à laquelle nous sommes attachés, c'est que le potentiel performance de chaque bateau soit identique. Et ce que l'on veut, c'est que la différence, c'est les équipages qui font la différence.
Que les bateaux soient en plastique ou en bois d'ailleurs, parce que
pareil, c'est bois classique, bois bordé, plastique. Vous avez ici à Douarnenez Fred Gourlaouen, qui a fait premier français au championnat du monde 2015 à La Rochelle, avec un bateau bois bordé de 1967.
Ah, c'est pour vous dire qu'on peut encore naviguer avec
des vieux bateaux.
Des Commodes Louis XV, comme dit Loïc Perron, à propos de Penguin 2, et être toujours au top de la classe.
Le vainqueur du précédent grade 1, même niveau que Douarnenez, est un bateau qui a été loué, et le bateau avait 20 ans. Et le gars, il gagne Cannes. Donc l'équipage, c'est eux qui ont fait la différence, et c'est ce que nous voulons.
Expliquez-nous, même pour des néophytes, à bord du bateau, une régate, ça se passe comment? Combien d'équipages? Quels sont les postes, en quelques mots?
On est trois en général. On peut être quatre en fonction des poids des personnes. Il y a un poids maximum. Quand on est trois, il y en a un qui règle les voiles d'avant, le barreur qui souvent s'occupe de sa grand voile, et un tacticien qui manœuvre le moins possible pour avoir la tête le plus dehors.
Et qui regarde un peu ce qui se passe autour de lui.
Et c'est lui le vrai pilote du bateau.
Demain, comment se passe la première journée de régate pour vous? Quel sera votre agenda de la journée,
Jean Brégé? L'agenda de la journée, c'est matin, finir de préparer le bateau, papoter, contacter nos petits copains de jeu. C'est très important, la convivialité, c'est très important pour nous. On se bat comme des chiffonniers sur l'eau, mais on boit une bonne bière ensemble après. Et ça, c'est aussi une grande spécificité de Douarnenez, l'accueil, la convivialité, il y a un réel savoir-faire.
Quand on dit la classe des Dragons, ce sont des skippers professionnels et amateurs. Sur les 45-46, je crois, bateaux engagés, il y a surtout une majorité de professionnels. Expliquez-nous alors comment ils fonctionnent, ces professionnels. Est-ce que c'est des skippers, des marins, des armateurs qui vivent de ça à l'année?
Il suffit qu'à bord du bateau, il y ait un professionnel.
Pour considérer l'équipage comme...
Et on considère l'équipage comme professionnel. Je reprends l'exemple de Fred Gourlaouen, qui est un professionnel du nautisme, qui dépense de l'argent pour régater. C'est un professionnel. Donc la marge entre professionnel et amateur...
C'est plus flou que ça, alors.
Voilà. D'autant plus que, dans mon esprit, beaucoup de professionnels sont des amateurs. La définition d'amateur, c'est qui aime. Donc il n'y a pas de question d'argent.
Là, aujourd'hui, tout le monde est amateur à ce, dans ce sens-là.
Exactement.
Ce que vous me dites.
Exactement. Et dans mon esprit, qu'il y en ait qui gagnent de l'argent et d'autres qu'en dépensent, c'est pas le problème.
Ces bateaux, les dragons, ils sont aussi beaux à voir à quai qu'en navigation. C'est vraiment des petits bijoux tous. Mais pour le commun des mortels, ça reste des choses assez onéreuses quand même. C'est pas facile de se lancer dans la navigation sur ces dragons-là. Ou alors je me trompe et vous allez dire que je me trompe.
Vous avez raison si on veut un bateau neuf. Mais je reprends l'exemple du vainqueur de Cannes. Bateau de 20 ans, budget. Un bateau de 20 ans, ça s'achète entre 12 et 15 000 euros. On est très loin des budgets d'un diam.
Qui sont plutôt autour, je me souviens plus exactement de combien de coûte le diam, mais...
Je ne dirais, je connais pas précisément, donc je préfère pas le dire, mais c'est nettement plus onéreux. Mais ce sont des amateurs, ces gens-là. Quand on regarde leurs yeux, ils
aiment. Jean Brégé, il nous montre l'endroit où étaient installés tout à l'heure Pierre Leboucher et Nicolas Troussel.
Quand ils parlent de leur jeu, ils aiment. Et c'est ça l'important.
Vous, à bord du Dragon, quelle est la place que vous privilégiez, que vous adorez justement, que vous préférez?
Moi, je suis collé à la barre. Je suis pas trop mauvais barreur, très mauvais tacticien et j'ai plus l'âge d'être régleur.
Et qu'est-ce que vous aimez particulièrement à Douarnenez, dans cette baie où justement les dragons ont rendez-vous chaque année au mois d'avril, au mois de mai?
Douarnenez, c'est un des quatre plus beaux plans d'eau de France.
Il n'a pas dit le plus beau, hein. L'un des quatre.
Mais c'est la plus belle équipe de bénévoles. Je n'ai jamais rencontré ailleurs une équipe de bénévoles. À Douarnenez, on a l'impression que tout se passe facilement. Ça veut dire qu'il y a quand même du travail en amont pour que ça donne l'impression de passer tout seul. Et il y a quelques hommes clés dans cette organisation. Je ne peux pas...
Citer tout le monde.
Participer à cet entretien sans citer Louis Hourvois qui nous a quittés fin mars, qui a été le père fondateur de l'épreuve et qui, je crois, a insufflé à tous les clubs de Douarnenez, parce qu'il n'y a pas que la SRD, une dynamique qui va rester, d'abord pour nous, c'est presque sentimental, et il a su insuffler, il a su convertir avant de partir Christian Guyader. Sans Christian Guyader, sans Guyader Gastronomie, il n'y a pas d'épreuve.
Qui en est le premier sponsor de l'épreuve.
Et en plus, il a su le convertir au Dragon. Que pouvons-nous demander de plus, nos concurrents dragonistes?
On va justement dire un mot là-dessus avec Gwen Chapalin qui vient de nous rejoindre, co-organisateur de l'événement. Bonjour Gwen.
Bonjour.
Un mot là-dessus, sur Louis Hervois, sur la transmission de tout ça, avant Alors. De parler de littérature et de marin.
Moi, j'ai passé 20 ans avec Louis à faire beaucoup de bateaux et à imaginer beaucoup de projets. Et donc, c'est quelqu'un qui était extrêmement érudit et qui donnait confiance aux gens, voilà, pour lancer des projets. Et donc, ça a été vraiment une très très belle aventure, ce qu'on a fait ensemble.
Merci pour ce petit mot, Gwen Chapalin. On se retrouve dans une toute petite seconde pour parler d'un projet un peu spécial cette année sur le Grand Prix Guyader qui va mêler littérature et course au large.
Tous les jours avec vous, les experts.
Avec l'espace Info Énergie, nous évoquons ce mardi l'isolation des murs extérieurs. 25% de déperdition de chaleur d'une maison pourrait fuir par ces murs. Alors, quelles sont les solutions pour les rendre plus hermétiques? Par l'intérieur, par l'extérieur, quels matériaux utiliser, quelles performances et quelles aides? Aline Lejar, conseillère Info Énergie à Quimper Cornouailles Développement, nous aide dans nos choix ce mardi à 9h avec vos questions au 02 98 53 65 65.
À Douarnenez toujours et jusqu'à 19h en direct du Grand Prix Guyader, le temps de vous donner le nom du vainqueur qui a tout à l'heure trouvé le footballeur qu'il fallait trouver dans le quiz. C'était évidemment Serge Le Disait qui était bien sûr champion de France en 95 avec le FC Nantes. Il s'agit de Nicolas Soir et on lui souhaite un bon match vendredi 13 prochain. Ce sera Brest au Serre. Il a gagné deux invitations. On poursuit donc avec Gwen Chapalin à propos de ce projet étonnant qui va mêler les crayons et les boots, si on peut le dire comme ça, les stylos et les claviers d'ordinateur et aussi les voiles et la course au large. Vous avez décidé de lancer une course cette année qui n'est pas vraiment une course. Des marins associés à des écrivains. Expliquez-nous, parce que c'est nébuleux un petit peu. Tout à l'heure, on m'a demandé pour l'anecdote sur le village, mais à quelle heure elle part demain exactement la Transat?
En fait, c'est pas une course.
C'est pas une course.
C'est une Transat culturelle avec une liberté d'action en termes de rédactionnel pour les écrivains de la maison Gallimard. Mais en même temps, pour les marins, il n'y a pas de lieu de départ, il n'y a pas de date de départ, il n'y a pas de lieu d'arrivée. Enfin, ça part de Bretagne et ça arrive aux États-Unis, entre Newport et New York. Et c'est simplement le seul moment pour eux dans les marins du Vendée Globe où ils ont le temps pour eux. C'est-à-dire que il est hors de question de dire je vais plus vite que mon copain. Non, c'est pas.
On oublie les codes de la course.
On écrase complètement les codes de la course et on prend du temps pour écrire des histoires, pour faire rêver le public. Et Antoine Gallimard, il a une maison ici à Douarnenez, on est assez proche. Et donc quand j'ai proposé cette idée à Antoine au Salon Nautique, il m'a dit ben ça m'éclate. Donc du coup Antoine a amené les marins de la maison Gallimard. Et puis les marins, bah, ici, on les a sollicités. Et donc ils partent entre guillemets en convoyage. On a enlevé le mot con parce que c'était pas très joli. Et donc c'est un voyage transatlantique. et donc les écrivains Gallimard se sont associés. Donc on a fait des fiançailles. On ne sait pas si ça va aller jusqu'au mariage, mais voilà. Donc chacun écrit une partition. Et puis si on a assez de matière, voilà, il y a éventuellement un petit livre qui pourrait sortir. Mais c'est pas d'abord. On va voir comment les fiançailles se comportent.
Comment ça marche au début? Alors, parmi les écrivains, donc François Garde, Eddy Cadou, Pierre Péju, Éric Fautorino, Olivier Frébourg, Philippe Borda et Sylvain Tesson. Alors, pour avoir lu son carnet de voyage, puisque ça n'en était pas un, mais seul en Sibérie, à côté du lac Baïkal, c'est vraiment quelqu'un qui aime les moments pour soi, les moments de solitude, les moments un peu étonnants comme ça. Je pense que ça va être assez savoureux de voir ce que ça va donner.
Alors, moi, j'ai eu la chance de connaître Sylvain, parce qu'il a accompagné la Mini Transat, et le bateau d'Antoine Gallimard, c'était le bateau amiral de la Mini, et Sylvain était à bord du bateau, donc il aime les plans où il y a un peu d'aventure, et là je suis sûr que on va avoir des papiers complètement décalés en fait, hein, voilà. Mais il y a zéro contrainte, donc c'est les écrivains, ils vont parler sur d'une manière générale sur le voyage et sur l'aventure maritime, et on a demandé aux marins de faire rêver simplement. Mais c'est le seul timing de toute leur saison, parce que leur objectif principal c'est le Vendée Globe qui est les Jeux Olympiques de la course au large.
Juste 60 pieds, voilà.
Et voilà, donc il faut qu'ils prennent du temps pendant ce voyage pour essayer de nous faire rêver. Et puis voilà, et moi ce que j'espère c'est que le petit binôme qu'on a créé perdure et que pendant le Vendée Globe on continue à avoir des histoires.
Mais est-ce qu'ils vont avoir le temps, parce que ces marins aujourd'hui, Gwen, ils sont accaparés par les ordinateurs, par les routages, par tout un tas de choses très très technologiques sur ces bateaux. Est-ce qu'ils ont le temps vraiment de se consacrer à la littérature, à leur fort intérieur? C'est plus Bernard Moitessier, quoi.
Non, mais quand on va en mer, on est attiré par le sport, mais on est attiré par la lumière, on est attiré par les paysages, on est attiré par la solitude, on est attiré par... On part d'un endroit, on arrive à un autre endroit, et c'est... on a les émotions qui sont à vif, alors vers le haut ou vers le bas, mais tout est multiplié, et justement, ce voyage maritime, ce voyage avec les éditions Gallimard, c'est un moment de partage, et donc on a monté un petit site internet sur le voyage transatlantique, avec l'onglet Grand Prix Guyader, on tombe dessus, et puis chaque jour on va mettre un marin et un écrivain un petit peu en avant, sur chacun va raconter son projet.
Et est-ce que c'est pas aussi une volonté d'essayer d'aller peut-être un peu plus loin que ce que la communication aujourd'hui nous donne de ces marins quand ils sont en mer? C'est vrai qu'on a des vacations qui sont un petit peu toujours les mêmes, qui se ressemblent. Là, vous avez envie d'aller creuser un petit peu plus loin dans l'humain, dans ce que le marin vit vraiment, dans ce qu'il apprécie, dans peut-être les idées qui lui passent par la tête, justement, en dehors de la compétition.
Ah bah oui, c'est pour ça que c'est pas une compétition. Et c'est pour ça que quand on fait le défi et les runs de vitesse, c'est une compétition parce qu'il y a David contre Goliath, etc. Mais c'est un moment fun de la saison. C'est un truc qu'on monte depuis 15 ans. Il y a Idek samedi qui a fait des runs à 35 nœuds à 15 mètres du public. C'est des moments d'émotion. Et là, c'est une nouvelle page d'écriture qu'on écrit sur le Grand Prix Guyader, avec une transat culturelle, parce que c'est pas une transat sportive. Mmh. Et on se lance, hein, c'est une aventure pour nous aussi, organisateurs. Et on va voir comment ça bouge. Mais je doute pas que ça accroche, parce que les marins étaient Bah, c'est des sportifs, donc ils sont tous avec des codes. Voilà, je prépare mon bateau, je vais voir le médecin, je vais faire les contrôles sécu. Voilà, il y a le départ, etc. Et puis j'aurais dit, mais non, c'est pas ça. C'est surtout pas une course. Et au contraire, prenez du temps. Et donc il y a Eric Orsena qui nous a mis un petit mot en préambule de cette histoire en disant, prenez le temps parce que après vous l'aurez plus. Voilà.
Les belles histoires, justement, il y a la Transat anglaise qui est toujours une belle histoire de mer qui part aujourd'hui de Plymouth. Peut-être que d'ailleurs la Transat anglaise a coûté quelques beaux bateaux au Grand Prix cette année, on aurait pu les voir. Je voulais, Gwen, vous demander ce que vous pensez du plateau d'abord, et puis de ce qu'ils vont devoir affronter là, jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique, là, à la fois les Imoca du Vendée Globe et les grands trimarans comme IDEC. Il y a Massif et Sodebo et Actual qui sont au départ de cette Transat anglaise.
Alors la Transat anglaise, c'est une course mythique, c'est ce qui a développé en 64 le nautisme en France avec Tabarly, en 76 aussi avec sa victoire sur Plaine d'Uxis. À l'époque, il n'y a pas de moyen de communication, il n'y a pas de moyen de positionnement, donc c'était l'aventure et c'était Tabarly à gagner. Il y a 4 ans, la course n'a pas eu lieu, elle redémarre, mais c'est une course de légende, et faire de l'Atlantique Nord début mai, c'est une sacrée course, et c'est une course vraiment difficile.
C'est se confronter forcément à des vents de face, à des mers pas commodes, à des températures un peu glaciales.
Oui, alors le schéma habituel, c'est les dépressions viennent des États-Unis et viennent chez nous. Si on prend la partie sud de la dépression, on a le vent de face, et donc là sur la Transat anglaise, on va prendre la partie nord de la dépression pour avoir le vent un peu dans le derrière pour que les bateaux glissent, et donc en prenant le vent dans le derrière, ça fait monter très nord. Et donc à la limite des glaces, voilà.
À des latitudes qui nous amènent par rapport à l'Europe, c'est quoi? C'est la latitude de l'Écosse, encore un peu au-dessus.
J'ai vu un routage et oui, il montait plus loin que dans l'Irlande. Enfin voilà, c'est.
Ah oui.
Donc voilà, il faut un grand virage vers le nord avant de redescendre vers les États-Unis.
Donc il fait un peu frais ce soir à Douarnenez, mais finalement on est assez content quand on pense à ces latitudes.
Mais ça va être une course passionnante parce qu'il y a les 40 pieds aussi, il y a les 60 pieds. Enfin non, c'est vraiment une belle course. Hein.
À suivre évidemment également sur France Bleu, Brice Izel. Merci beaucoup Gwen Chapalin d'être venu au micro de France Bleu ce soir. Et on va reparler de foot dans quelques petits instants avec Alain Bossert du Mondial Pupille à Plomelin. On va quitter un peu les rives du nautisme pour revenir sur les gazons du foot. À tout de suite.
France Bleu.
France Bleu partage les bonnes idées cuisine avec Marmiton Magazine. Les meilleures recettes de printemps avec les fruits et légumes de saison. Des idées pour l'apéritif et 10 desserts glacés pas comme les autres. Et toujours, plus de 100 recettes testées et approuvées par les internautes. On cuisine ensemble sur France Bleu, du lundi au vendredi à 10h et dans Marmiton Magazine, disponible actuellement.
Pour en savoir plus, francebleu.fr/loisirs.
Allô, qui est en ligne?
Allô, c'est moi, je suis un auditeur.
Oui.
Au téléphone. Je suis complètement accro aux chevaliers du fiel. Vous les écoutez jour et nuit.
Mais c'est tout simple. Vous allez sur francebleu.fr et vous vous abonnez au podcast.
Vous abonnez, mais c'est payant.
Mais bah absolument pas, c'est gratuit.
Mais c'est gratuit.
Et c'est illimité, vous les écoutez autant que vous voulez.
Attendez, je parle à ma femme. Tu l'as noté, ça? Tu l'as noté?
Vous aussi, abonnez-vous au podcast des chevaliers du fiel sur francebleu.fr et sur les plateformes de téléchargement légal.
Il s'entraîne depuis 2 semaines. Il est affûté, armé pour le Trot-Ménézard. Se vous retrouvez Régis Servet aux côtés des randonneurs, des marcheurs de ce grand rendez-vous en Centre-Bretagne. La matinale en direct du Trot-Ménézard avec Régis Servet.
Et Axel Perret?
Oui, alors lui, il sera au chaud dans le camion France Bleu.
Mais en direct de l'Opérec pour le Trot-Ménézard.
Il reste combien de kilomètres là?
Ah, il est beau quand même, hein? Quel homme.
Stade Bleu.
Toujours en direct de Douarnenez jusqu'à 19h pendant quelques minutes encore. Nous sommes au Grand Prix Guyader qui dure jusqu'à dimanche. Et cette fois, on ne parle plus de bateau ni de nautisme, mais de football. Et en petite catégorie, pupille. Bonsoir Alain Bossert.
Et bonsoir.
Mondial pupille à Plomelin et pas qu'à Plomelin. Hein. Il y a plusieurs lieux, plusieurs villes qui vont accueillir les matchs de ces tout jeunes footballeurs. C'est la 31e édition déjà cette année. Ça passe vite?
Oui, ça passe très vite. Effectivement, on a commencé cette belle aventure en 86.
Et donc, comme vous disiez, ce choix qui a été fait à l'époque de répartir les matchs sur 10 communes du Finistère Sud, ça représente pratiquement aujourd'hui toute la Grande Cornouaille.
Il y a des matchs à Douarnenez d'ailleurs. Hein.
Ah oui, oui, ouais. Douarnenez est un centre qui est là pratiquement depuis l'origine.
Hein. De Douarnenez jusqu'à Fouesnant, et
Quimper.
De l'autre côté.
Alors on va donc, on part d'abord du Cap Sizun, ensuite on descend jusqu'à Pamar, Fouesnant, on remonte à Quimper, Douarnenez, et puis ensuite, eh bien, vous avez Plogastel, Pluguffan, Gourlison, enfin, voilà, donc Plomelin bien sûr.
Et Plomelin, bien, il faut quand même pas oublier que la finale se déroule dans la ville de Plomelin. Alors cette année, est-ce que vous avez des, je dirais pas des nouveautés, mais des équipes qui viennent d'encore plus loin que d'habitude, parce que ça vient toujours de très très loin. J'ai sous mes yeux le tableau des matchs. Il y a des équipes de Belgique, Biélorussie, Algérie, Brésil, Canada, Italie. Je peux pas tout citer, évidemment. Il y a beaucoup de monde. Vous essayez aussi d'aller chercher des nouveaux clubs entre guillemets chaque année.
Oui, alors donc effectivement, donc cette année il y a 20 pays représentés.
20
il y a
pays.
20 pays représentés. Il y a à peu près 25 équipes étrangères. Et donc on essaye donc par notre réseau de trouver des équipes. Cette année on a fait venir une équipe de Serbie qu'on n'avait pas eu depuis quelques années. Et puis bon, on a cette année on n'a pas Madagascar parce qu'ils ont eu des problèmes pour venir, parce que des problèmes financiers, parce qu'il faut aussi financer le
voyage,
les transports.
Bah oui.
Et puis cette année on a fait aussi un effort sur le plan français, on a fait venir l'OM. Hein, ce qui on a pris des contacts, c'est un an de travail hein, pour faire venir une équipe comme l'OM.
Parce qu'il faut même en pupille.
Oui, même en pupille, oui, même en pupille, oui. Les grandes équipes, il faut prendre un contact pratiquement un an à l'avance.
Ces jeunes, ils jouent pas des matchs de 90 minutes sur un terrain équivalent aux pros.
Non, alors,
dites-nous un petit peu dans quel format on joue au foot quand on est pupille.
D'abord, donc c'est une spécificité de notre tournoi. Ce sont des équipes de 11 d'abord. On joue à 11, alors qu'en général toute l'année ils jouent à 8, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et donc là ils jouent à 11 et c'est un match dure 2 fois 12 minutes, c'est 24 minutes, et ils font ça en poule. C'est-à-dire que chaque équipe va faire au minimum 8 matchs. Les deux premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale, et puis ensuite eh bien quart de finale et demi-finale, finale de dimanche.
Ils ont un autre rythme que les joueurs de première division. Hein. Il y a un peu plus de matchs resserrés en 4 jours. Là.
Mais d'ailleurs, on voit bien que les équipes qui arrivent au bout, hein, je peux vous assurer que les enfants le soir sont très très fatigués.
Rincé,
dimanche soir.
Ça dort à 21h.
Ah oui, oui, oui. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier non plus que c'est le foot, la fête et l'enfant, donc il faut aussi qu'ils en profitent de cette grande fête de football.
Dites-moi, là on est lundi, les premiers matchs commencent jeudi, quand est-ce qu'ils arrivent? Certains sont déjà là peut-être?
Alors certains sont arrivés déjà ce matin, donc des réunionnais sont arrivés ce matin, et puis ça va arriver à partir de demain jusqu'à mercredi soir.
La logistique ça suit, vous avez tout le monde pour accueillir tout ça?
Voilà, donc il nous faut effectivement 850 familles à peu près pour accueillir tout ce beau monde. Il faut surtout des bénévoles qu'il faut remercier au passage. Il nous faut à peu près 1000 bénévoles sur 4 jours pour organiser cette manifestation. Et j'oublie pas le comité organisateur qui travaille pratiquement depuis septembre.
L'an passé, 4500 spectateurs, 1400 participants. Vous serez sur des chiffres équivalents cette fois?
Oui, même on pense que le dimanche à Plomelin, il y a un peu plus. On pense qu'il y a entre 5 et 6000 spectateurs. Sur les 4 jours, on attend sur l'ensemble des matchs, hein, des stades, à peu près une vingtaine de mille de personnes.
Bon, le ou les souvenirs de l'an passé qui vous avaient ému, parce que des souvenirs vous en avez tous les ans, mais...
Oui, c'est vrai que d'abord c'est une belle histoire. Oui, après, si vous voulez, il n'y a pas de particularité. J'essaie de prendre un peu de hauteur par rapport à tout cela, parce que c'est vrai qu'on s'attache très facilement dans aux équipes ou aux enfants. Hein, et puis, voilà, donc l'année dernière, on a essayé une opération qui s'appelait Handshake for Peace, qui était donc la poignée de main pour la paix.
Oui. Hein,
et donc malheureusement cette année on n'a pas eu d'écho, on n'a pas renouvelé cette expérience, mais je pense que c'était un bon signe, parce que c'était quand même ça venait d'Oslo, donc
après voilà. Les attentats là.
Oui. Et puis voilà, donc c'est comme ça.
Merci beaucoup Alain Bossert, le temps file, on est déjà au bout de cette émission. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Douarnenez cet après-midi.
Merci.
Pour nous raconter le Mondial Pupille qui démarre donc ce jeudi, et le parrain de l'épreuve cette année, c'est ni plus ni moins que Philippe Bergerot, ancien entraîneur de l'équipe du PSG de Rennes et aujourd'hui entraîneur de l'équipe de France féminine.